Afin, Seigneur Dieu, que puisse dire ce qu'il a dit encore ce matin.
Parlez
de toi, Seigneur. Parlez de ce que tu peux faire encore, Seigneur. Parce que tu peux guérir, tu peux sauver, tu peux restaurer, tu peux consoler encore ce matin, Seigneur. Mais que Seigneur Dieu dispose encore le cœur de chacun de nous. Seigneur, nettoie encore nos oreilles pour que nous puissions entendre, Père éternel, ce que tu as dit. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.
Moi, t'as dit tout le monde bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien du grâce, bon Dieu.
Oui.
Très heureux d'être avec vous ce matin dans la présence de Dieu. Chaque jour que Dieu fait est un jour glorieux. Parce qu'il nous accorde la vie et il nous a accordé la vie éternelle. Et aujourd'hui, c'est particulièrement important pour nous parce que c'est le dimanche de Pâques et nous célébrons le Christ ressuscité chaque jour, mais nous voulons le faire d'une façon toute spéciale aujourd'hui par la grâce. La Pâques est une fête extraordinaire. Est-ce que vous le croyez? Parce que c'est une merveilleuse occasion de célébrer la toute-puissance de Dieu et le règne sans fin de l'Esprit. Un règne qui n'a pas de fin. Le ressuscité, le Messie, le Seigneur tout-puissant. Alors, j'aimerais te dire que le message de Pâques aujourd'hui est pour toi. Et nous avons à nous poser quelques questions. Es-tu en relation avec le Messie? Te laisses-tu chaque jour transformer par le Messie? Ta vie est-elle empreinte de l'esprit de Pâques, de l'esprit du Messie? Question pour chacun de nous. C'est vrai, je dis à nous perpétuer Pâques. Oui. Mais est-ce moi dans l'esprit Pâques chaque jour? Ça, c'est en question. Alors, ce matin, j'aimerais t'inviter à prendre un chemin avec moi. Je savais connaître bien la Bible, sans qui je suis humanité. Mais juste avant, parce qu'il faut essayer de préciser un petit peu les choses, sais-tu qu'il y a deux Pâques? Oui? Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Il y a la Pâque qui est sans S et il y a la Pâque qui a un S. Alors, c'est une des particularités du français, puisqu'en anglais, on n'a pas la même chose. En anglais, il y a pass over, passer outre, passer la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne islamique. Alors, la question que je vous dis, est-ce qu'il y a deux Pâques d'année, mais est-ce que ce n'est pas la même chose? Je ne vais pas te dire que ce n'est pas la même chose, mais il y a un lien entre les deux. Pass over, passer outre, épargner, nous rappelle l'événement qu'il y a eu en Exode chapitre 12, qui concernait la libération du peuple d'Israël de la servitude d'Égypte. N'est-ce pas? Et on sait qu'à cette période-là, Dieu va frapper les premiers-nés et va épargner les maisons qui ont été, peut-être tu peux faire ça chez toi, je ne sais pas, va digeler le sang. Pass over, passer outre, épargner. Et puis il y a Easter, la Pâque chrétienne. Et là, ce sont les premiers chrétiens qui ont célébré la résurrection de Jésus et qui ont tenu à mettre en lien cette nouvelle fête en relation avec la Pâque juive. Et on le voit très clairement à travers le dernier repas que Jésus va prendre avec ses disciples. C'est un repas de Pâques mais qui précède la crucifixion et qui précède la résurrection de Christ et qui a lieu le troisième jour. Cette résurrection. Si résurrection et crucifixion vont ensemble, on peut dire que la Pâque passe over sans S et la Pâque avec S, la Pâque chrétienne, ont un lien entre eux. Parce que la Pâque juive nous évoque, et quand les disciples reprennent et prennent, comment dire, ce jour-là, elle annonce la mort de Jésus, et elle annonce la mort de Jésus pour nous. Mais en même temps, la Pâque chrétienne, nous annonce la victoire du Sauveur sur la mort, nous annonce sa résurrection. Amen. Attends, c'est bon? Ça va? On peut continuer. Et puis, grâce à Dieu. Alors, vous savez qu'un jour, il y a un pasteur qui faisait une leçon biblique pour les enfants, ce qui ne m'arrive pas souvent personnellement, mais il faisait une leçon biblique pour les enfants. Je ne sais pas s'il avait l'habitude de le faire avec les enfants, et il essayait de raconter l'histoire de la résurrection pour les enfants. Il faisait une petite étude pour eux. Et il leur a posé une question. Quelle a été la première réaction, les premières paroles de Jésus quand il a vu les disciples après sa résurrection? Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples juste après la résurrection? Alors les enfants sont allés chercher. Et avant que le pasteur ne puisse donner sa réponse, il y a une petite fille qui s'est levée et dit « Je sais ». Et puis elle a dit « Tadam, c'est moi ». Voilà sa compréhension de la résurrection. C'est sa façon à elle de voir cette révélation de la résurrection pour les disciples. Et pour toi, qu'est-ce que la résurrection de Jésus change dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Et ce matin, j'aimerais t'emmener sur un chemin de vie, parce que c'est par la résurrection que Dieu veut ouvrir tes yeux et changer.
Amen.
Te faire sortir de la déception, te changer ta mentalité, te mettre en mouvement et t'accorder la grâce. Alors ce matin, le chemin que j'aimerais que nous empruntions, c'est le chemin de deux disciples. Et là, tout de suite, les cerveaux sont en train de se caler, il n'y a pas de problème. Deux disciples esselés sur le chemin d'Emmaüs. Imaginez-vous. Après avoir passé 3 années, ou un peu moins, je ne sais, d'expériences extraordinaires avec Jésus, des voyages, des miracles, des foules qui suivent, des délivrances avec Jésus, ces deux hommes, alors je dis deux hommes, mais peut-être que c'est un couple, je ne sais pas, parce qu'il y en a un seul qui est nommé, se retrouve déboussolé. Et il y avait une grande espérance. À travers Jésus. Ils avaient une grande espérance à travers Jésus qui avait pour eux une double dimension. Une dimension spirituelle, et peut-être que pour nous, c'est comme ça que nous le voyons, mais il y avait aussi pour eux une dimension politique. Elle réglait tous les problèmes, parce qu'il était où Jésus qui a agi, il a dit, c'est à régler tout problème. Et là, depuis 3 jours, tout comme la mort en babal. En plus, c'est pas bien. Tout tombe comme un château de cartes dans leur vie. Et ils voient toute une troupe venir arrêter un seul homme. On le maltraite. On le frappe. On le fait passer devant les prêtres. Après, on l'emmène devant Pilate. Et puis après, on le ramène devant Hérode. Et puis on le ramène devant Pilate. Et finalement, on le condamne à mort. Et on lui fait porter une croix. Et il est crucifié. Et on entend un cri. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors, pour ces deux compagnons, à quoi bon rester à Jérusalem? Balle finie, violon dans sa tête. Oui, c'est vrai qu'après, on a entendu dire, c'est les deux disciples qui doivent se dire, oui, on a entendu dire qu'il y a des sœurs qui ont vu que le tombeau était vide, et puis elles ont vu des anges, et puis il y a des disciples qui sont passés, il y avait personne. En fait, bref, ces deux disciples profondément choqués, déçus, désappointés, prennent le chemin d'Emmaüs. Est-ce qu'on peut lire ce texte situé dans Luc chapitre 24? Luc chapitre 24, verset 13 à 35. Luc chapitre 24, verset 13 à 35. Et voici ce même jour, Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 sacs, on prenait par là 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je peux vous donner cette phrase et vous faire plancher pendant 2 heures. Vous donnerez la réponse. Hein? Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, celui qui est nommé, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Lui dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrera Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues le grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues à dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils n'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, Ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est dans à croire tout ce qu'on dit des prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures qui le concernaient. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais qu'il le pressait, rendisse, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il leur en donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut. Et ils se disent alors, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où Seigneur, éclaire-nous tout à nouveau par ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs et que le message du ressuscité nous redonne vie en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, les deux disciples, je vous ai dit, il s'agit de Cléopas et puis l'autre n'est pas nommé. Ils marchent vers Emmaüs. Et je l'ai dit dans la lecture, c'est 12 kilomètres pour aller jusqu'à Emmaüs. Alors normalement, 12 kilomètres, on peut dire, si vous êtes le bon marcheur, et je sais qu'il y en a ici, bon, on va dire peut-être un peu 2 heures ou 3 heures, on peut dire ça? Ouais. Mais je suppose que cette marche a été longue pour eux. Longue et fatigante, parce qu'ils étaient écrasés par les événements qu'ils venaient de vivre ces 3 jours derniers. Comment faire le tour? Comment comprendre ce qui s'est passé? Et puis toutes les questions de pourquoi? D'ailleurs, au verset 14, vous voyez, il est dit, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de ressasser ensemble tous ces événements terribles, comme deux personnes qui, après un événement, un accident, par exemple, se repassent le film en boucle comme ça dans leur tête. Difficile de passer à autre chose. Yubotjela. C'est ça qui est en tête, Yo. Tania et d'autres. Et pourtant, au verset 15, Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Jésus s'invite auprès d'eux. Jésus vient à côté d'eux en incognito. Jésus s'improvise ici comme un invité mystère. Vous voyez, en fait, c'est l'homme dont on parle le plus, mais qu'on n'attend plus. Est-ce que vous me suivez? C'est l'homme dont on parle le plus, mais qu'on n'attend plus. Et j'espère que nos vies chrétiennes ne ressemblent pas à cela. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est dit les disciples, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut plancher plusieurs heures sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Vous comprenez quelque chose à ça? Alors, je ne sais pas si Jésus était déguisé, et franchement, je ne le pense pas. Mais Zéio même pas te carré connaître Jésus. Parce que d'où la yo est tellement fort que ça te qu'à empêcher yo d'y voir la réalité. Zéio est bouché. Yo pas te carré, yo te carré flou. Et je dois vous confesser que parfois, il m'est arrivé de laisser juste une mauvaise parole de quelqu'un me pourrir une, deux, trois jours. Je dois le confesser. Et je dis ça parce que peut-être ça me concerne moi, mais ça ne te concerne pas. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Nous laissons trop souvent aveuglés par les événements malheureux de notre vie. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Trop souvent, notre morale tombe à zéro pour un détail, parfois, n'est-ce pas vrai? Alors que le ressuscité marche à nos côtés. Hello? Trop souvent, on se laisse prendre la tête par des choses alors que le ressuscité est à nos côtés. Est-ce que tu te sens concerné? Vous savez, pas plus tard que vendredi, j'ai rencontré un ami qui vient de subir un AVC alors qu'il était en pleine activité. Et il me racontait que les médecins n'avaient plus trop d'espoir et essayaient de le dire. Alors j'ai vu que c'était une façon un peu imagée à son épouse. Et grâce à Dieu, il y avait le frère de son épouse qui était là et qui vraiment encourageait son épouse à dire « Mais non, on va le revoir, on va le revoir, on va le revoir. » Mais sa femme était en panique quand même, bien qu'elle était soutenue par son frère. Et les médecins ne voulaient pas donner de faux espoir à son épouse. Et pendant ce temps, il m'expliquait que lui, quand il est retourné un petit peu à la conscience, il y avait un verset qui retournait à sa tête, un verset qui retournait à son esprit. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les yeux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu assèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et il se répétait cela en boucle, Proverbe chapitre 17, verset 20. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait garder sa joie dans les moments les plus terribles de ça. C'est pas, il y a deux jours, il m'a donné le témoignage. Et je vous avoue qu'en l'écoutant, je me suis senti vraiment tout petit, devant ce qu'il exprimait dans son épreuve. Et c'est vrai, quand on a appris la nouvelle, il y a deux mois de ça, mon épouse et moi nous avons prié, mais je sais beaucoup de personnes en Martinique, même m'a dit que jusqu'au Canada, on priait pour lui. Mais quand il m'a exprimé ça, je me suis senti vraiment tout petit. Quand les médecins étaient pessimistes, et ils lui disaient, bon, ben, ça va être compliqué, et tout, il dit, non, je vais marcher. Je vais marcher. Et je l'ai vu il y a deux jours. Il est en train de reprendre ses activités. C'est vrai qu'il marche doucement et tout. Il a une entreprise aussi à gérer. Il reprend progressivement ses activités, peut-être trop vite d'ailleurs. Mais il veut reprendre. Puis il y a une chose qu'il m'a dit aussi, c'est quelque chose d'avoir une pouce. Il m'a dit ça comme ça. Mais pour ça, pour vous dire que sa vie a basculé et je vous assure que j'ai vu un homme transformé. Les deux disciples qui font ce chemin, et moi je pense que c'est un chemin pénible, c'est 12 km et ça du compte du temps. Et surtout à cause du contenu de leur discussion. Ils vont vers Emmaüs, et d'ailleurs on se demande pourquoi ils vont là d'ailleurs. Mais ces deux disciples-là, en fait, ils parlent de nous. Ils parlent de nous parfois quand nous sommes sur un chemin d'espoir déçu. On a espéré, on n'a pas vu. Ils parlent de nous quand parfois nous sommes dans un chemin de désillusion. Un chemin aussi peut-être d'accusation, il ne va pas aller au mal. Peut-être un chemin de honte. Tu es en train de subir quelque chose depuis trop longtemps. Et avec tout ça, nous sommes aveuglés. Et ça nous empêche de reconnaître que Jésus, le ressuscité, est à côté de nous. La Bible dit que le ressuscité nous envoie en mission et il dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le mandat qu'il nous a confié était clair. Clairement, il nous le dit, mais sa promesse aussi est certaine, quelle que soit la situation, que tu sois sur un lit d'hôpital, que tu vas parler au mal, que tu te sens bloqué, Jésus dira à ses disciples, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, allez donc dans le monde entier, faites des nations des disciples. Et il dit clairement, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Et je vais même aller plus loin. Retiens cela. Nous connaissons mieux le ressuscité et sa puissance de résurrection lorsque nous l'expérimentons dans la souffrance.
Amen.
Il n'y a pas deux semaines, on a eu un message. Vous vous rappelez? Il n'y a pas deux semaines. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à souffrir pour l'évangile. Et lorsque nous vivons des expériences douloureuses, nous apprenons à mieux connaître la puissance de Christ et en même temps nous participons à la souffrance de Christ. Oui, c'est dans la Bible, Philippiens chapitre 3, le verset 10 à 11, l'apôtre Paul même dit, c'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de résurrection et avoir part à cette souffrance. Philippiens chapitre 3, verset 10 à 11. Alors rappelle-toi de cela, comme ces deux disciples, le ressuscité marche à tes côtés, même si on y a l'impression qu'il n'est pas là. Il a et pur. Amen. Et il ne se contente pas de marcher à tes côtés et de t'écouter. Il a aussi des choses. Et quand je lis ce texte, je suis amusé. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Parfois, je suis devant la parole et il y a un fou rire qui me prend. Quand je lis ce texte, je suis amusé vraiment par le fait que Jésus vienne incognito. C'est vrai, ça fait sourire. Et je suis aussi amusé par le fait que Jésus pose la question qui tue. On le voit au verset 17. De quoi discutez-vous en marchant? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez que le 14 ou le 15 septembre 2001, il y ait quelqu'un qui vous interroge sur ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Écoutez, mais c'est sorti. Ou plus proche, imaginez que quelqu'un vienne ici ce matin et puis vous regarde chacun de vous et vous dit hey, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez des masques? Mais écoutez, mais c'est sorti. En gros, c'est le genre de question que Jésus est en train de poser là. Tu sors de Jérusalem, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais allô, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que nous savons que c'est Jésus seul qui sait vraiment ce qui s'est passé. Alors ça m'amuse, c'est vrai. Mais ce qui m'impressionne, c'est surtout la méthode que Jésus utilise pour leur permettre de sortir de la boucle dans laquelle ils sont là. Ah, mais tout ça, tout ça passé. Ah, mais nous pas qu'elle est jamais arrivée. Mais côté nous, il est là. Ils étaient dans une boucle là pendant ce chemin d'Emmaüs. Regardez Jésus. Jésus leur accorde une belle séance, moi ce que j'appelle une belle séance de relationnel, tout en marchant. Vous savez, c'est assez pratique hein, de parler sans pour autant se regarder. Je dis ça en passant pour les couples, quand ça ne va pas trop, vous êtes en voiture, vous verrez, la discussion peut s'exprimer mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Bon, il n'y a que moi. C'est pas grave.
Jésus leur pose des questions pour leur permettre d'exprimer ce qu'ils ont en eux, leur vision qui est erronée d'ailleurs de la situation. Et Jésus prend le temps avec eux. Et moi, j'appelle ça une vraie séance de relation d'aide. Et pour comprendre leur approche du problème, leur compréhension erronée de la situation. Parce que pour l'instant, comme je dis, ils tournent en rond. Yo kakatinde. Et tout ça, kakoyoma. Et c'est là où Jésus les rejoint sur ce chemin. Ou peut-être qu'ils ne savent pas vraiment d'ailleurs où ils vont. Mais bon, on pourra aller là-dessus. Pour leur faire découvrir un autre chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de la réflexion. Alors Cléopas, lui, il prend la parole, il donne sa version des faits. Il dit, mais oui, mais il y avait un prophète qui était puissant, pourtant puissant, et il a été bloqué par des prêtres, et il a été bloqué par les chefs romains. Et puis ils l'ont tué, ça fait 3 jours, mais au fait, mais ça dit quelque chose, Jésus avait parlé 3 jours. Et, comment dire, il devait nous apporter la délivrance, notre délivrance, et puis maintenant, voilà, il est mort, et puis certains parlent de résurrection. Et c'est là où Jésus, toujours dans sa séance de relation d'aide, va donner une réplique mémorable, en pleine séance de relation d'aide. Alors écoutez bien, je vous le donne en 1000, ô homme sans intelligence. Ou encore, que vous êtes stupide. La version sonore. Attends, mais tu viens à côté de personnes qui sont tristes, tu leur poses des questions, alors que tout le monde sait la réponse aux questions, et maintenant tu leur dis, vous êtes stupide. Oh là là, non. Et pourtant, si. Luc ne dit pas comment ces hommes ont réagi, comment ils ont réagi, mais ce que l'on sait, c'est que ces hommes ont été à l'écoute de ce que cet homme mystérieux qu'ils ne connaissent pas était en train de leur dire. Et là, j'aimerais dire qu'il passe de la séance de relation d'aide, où il y avait une écoute fine, à une séance d'un véritable cours de théologie biblique. Savez-vous ce qu'est la théologie biblique? Ça vous dit quelque chose?
Ah, vraiment. Mais bon, parce qu'on devrait davantage en parler.
Hein? Alors, la théologie biblique s'intéresse, si vous voulez, à l'histoire du salut, de la Genèse à l'Apocalypse. On observe qu'il y a une révélation progressive du plan de salut pour Dieu. Et la théologie biblique nous permet de faire ce genre d'études. Tout ça pour vous dire, c'est qu'il y a, plusieurs grandes étapes du salut. On parle de la création, on parle de la chute, on parle de la promesse, on parle de la rédemption et on parle de la nouvelle création. Alors, je vous le fais en accéléré, mais je ne vais pas vous le dire. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Et d'ailleurs, Jésus est en train de leur expliquer de quoi il s'agit. Parce que Cléopas et son compagnon ont une vision faussée de l'histoire. Et cette vision faussée de l'histoire les fait tomber dans une tristesse sans fin. Je ne sais pas si tu as déjà observé. Mais tes pensées influencent tes émotions. Et tes émotions influencent ta vision des choses. Et ta vision des choses influence tes paroles. Et tes paroles influencent tes émotions. Et c'est reparti pour un tour. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et c'est un cycle sans fin qui te plonge dans la tristesse et dans le fond du tronc. Non, à un moment donné, il faut que la vérité remplace le mensonge. À un moment donné, il faut dire stop. Car rien, non rien n'empêche à Dieu d'être au contrôle sur nous. Il est dit ici, verset 26, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Dieu n'est-il pas capable de tout transformer pour la gloire de Dieu? Et Jésus montre à ses disciples ici qu'ils n'ont pas, il va leur montrer toutes les étapes. Il va leur parler de Moïse, il va leur parler des prophètes, il va leur parler de toutes les Écritures. Et il lui vient dire au verset 27 qu'il va leur dire ce qui se rapporte à lui pour les sortir du marasme, pour les sortir de leur bulle où ils pensent avoir tout compris. Ils ont besoin d'une bonne théologie. Ils ont besoin de penser juste. Ils ont besoin d'avoir des bases solides, vivantes et actives. Amen. Donc, tout le monde sera inscrit à SC. Pour changer leur mentalité, Jésus prend le temps avec eux.
Et vous savez, un vrai changement dans nos vies ne se produit pas à cause d'une expérience extraordinaire émotionnelle, mais cela arrive quand on a des principes, quand on a des bases solides ancrées en Christ. Personnellement, quand j'accompagne des jeunes hommes qui sont aux prises avec la pornographie, l'addiction à la pornographie, le travail que je fais, c'est que je commence à dévoiler toutes les vérités pour tuer tous les mensonges. Parce que ce sont des hommes, des jeunes hommes qui sont divisés entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils font. Et les deux hommes qui font cette longue marche, ces deux disciples pénibles vers Emmaüs, parlent de nous. Parfois, nous sommes à côté de la plaque parce que nos pensées ne sont pas bonnes. Parfois, nous sommes comme des personnes écartelées entre nos sentiments, notre volonté et nos connaissances. Donc, on est même démotivé. Entre ça nous a ressenti, entre ça nous met et entre ça nous connaît. Parfois, on veut faire croire qu'on gère, qu'on méprise au lieu de reconnaître que Jésus seul est la seule solution. Pour comprendre et même pour se comprendre. La Bible dit que le ressuscité éveille notre foi. Et c'est merveilleux de voir comment Jean chapitre 20, verset 8 à 9, Jean, quand il entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. Accepter la résurrection, c'est revivre, c'est renaître. C'est voir Jésus, l'homme parfait, notre espérance ultime, glorifiée. Accepter la résurrection, c'est reconnaître que bien des fois, je suis désarticulé, démantibulé entre ce que je connais, entre ce que je ressens, entre ce que je veux. Il y a une forme de désynchronisation, mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, Dieu est là pour m'unifier, que je sois une personne une pour sa gloire. Nous avons une nouvelle vie en Christ. Et nous sommes vivants. Comme il est dit dans Romains chapitre 6, verset 4, comme Christ a été ressuscité par la glorieuse, la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menons une vie nouvelle. Alors rappelle-toi de cela. Comme ces deux disciples, le ressuscité continue à t'expliquer la vie, même quand tu crois tout comprendre. Et il est attentif à toi. Et il attend que tu sois attentif. Et plus que ça, je viens de terminer par ce point. Qu'est-ce qui se passe au verset 28? Si vous avez vu ce qui se passe. Ils arrivent près d'Emmaüs, cette route, cette longue journée est remplie de rebondissements, hein, n'est-ce pas? Puisque la journée a commencé depuis le matin avec des femmes, n'est-ce pas? Et puis eux, ils terminent leur journée et leur nuit en nuit après. Alors, je ne sais pas si la route a duré juste 2 heures ou s'ils ont traîné du pied. Mais ils n'ont pas pu passer 3 ans avec Jésus pour pouvoir laisser cet homme mystérieux qu'ils ne connaissent pas partir faire son chemin. Et donc, ils insistent pour qu'il reste avec eux. Et le mot grec utilisé, c'est clair, il doit rester là. Ils insistent même. C'est une forme d'hospitalité forcée. D'ailleurs, Jésus veut partir, on peut se demander mais où il va dans le monde. En tout cas, l'homme avec lequel ils ont marché quelques heures et qui leur a donné des explications intéressantes, il l'invite à manger. D'ailleurs, pour ceux qui, voilà, on est en train de le voir aussi dans une cité ces temps-ci, pour ceux qui, dans l'évangile de Luc notamment, Jésus est régulièrement invité à manger. Et d'ailleurs, on va même le critiquer, on dira que c'est un glouton et c'est un ivrogne. Matthieu 7, Luc 7, verset 37. Pire encore, il va manger avec les mauvaises personnes. Et c'est à ce moment-là précis, quand ils vont manger, qu'ils vont reconnaître le ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas simplement les paroles de Jésus, ce n'est pas simplement la présence de Jésus, mais c'est lorsqu'ils vont manger qu'ils vont reconnaître que c'est Jésus, quand il va faire la prière de bénédiction. Mais la question que j'aimerais poser, mais finalement, qui invite qui? Pourquoi? Parce que c'est les deux disciples qui invitent Jésus, oui, mais finalement, c'est qui prend le pain et c'est qui partage le pain? C'est Jésus. Et ça, c'est la logique de l'évangile. C'est Dieu, miraculeusement, qui accepte le pécheur. Alors que nous étions encore des pécheurs sans force, Christ est mort pour les pécheurs. Jésus l'invité, c'est lui qui t'invite. Et j'aimerais t'inviter à considérer ça. On parle par exemple de faire le fait de j'accepte le Seigneur dans ton cœur. Mais en réalité, c'est Dieu qui, de toute éternité, t'avait déjà accepté. Alléluia! La bonne nouvelle de Jésus-Christ est précisément centrée sur le fait que Dieu accepte les pécheurs. Et l'initiative est la sienne. Là où bien garder, c'est bon Dieu qui existe. Et c'est lui qui prend la décision la plus forte, la plus dure, la plus coûteuse et la plus merveilleuse. Et nous, nous avons juste, et peut-être c'est aujourd'hui le choix que tu dois faire, à croire en Jésus, à répondre à son appel, à se tourner vers lui, à reconnaître Jésus comme le Sauveur et le Seigneur. Tu veux l'inviter dans ton cœur, mais il t'a déjà invité. Il t'a déjà invité. Et j'aimerais t'inviter à répondre à cet appel, à l'accepter dans ton cœur. Si tu n'es pas au clair avec ça, c'est peut-être le moment pour toi de dire « viens ». Et comme il vient sur le chemin de questionnement, de découragement, de peur, de crainte, de doute, pour ces deux disciples-là, il veut venir sur ton chemin. Et j'aimerais parler aussi aux chrétiens, parce que les deux disciples qui achètent cette longue marche, ils parlent aussi de nous. Je suis frappé de voir qu'un bon nombre de chrétiens vivent une sorte de misère spirituelle parce qu'ils ne se voient pas à la hauteur pour Dieu. Ils cherchent à faire des efforts par eux-mêmes, mais ils n'avancent pas trop. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas à la hauteur. Tu as juste besoin de la grâce pour travailler à ton salut chaque jour. Et parfois, on perd du temps. Au lieu de se rappeler que c'est Jésus qui a pris l'initiative de venir vers moi. La Bible dit que le ressuscité nous remplit de joie. On le voit très bien, toujours dans Jean chapitre 20, les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient. La Bible dit aussi que, alors qu'il est à la droite de Dieu, il a répandu son esprit sur nous. Alors qu'il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Le ressuscité t'invite à sa table même quand tu crois que c'est lui qui t'a invité. Alors j'aimerais terminer en vous disant trois choses, parce que on voit comment le texte se termine. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été ouvert au début, et puis il y a des résolutions à la fin de ce texte. Alors qu'au verset 16, il n'y a pas de cas où est à rien. Qu'est-ce qui se passe au verset 31? Leurs yeux s'ouvrent. Parce que Jésus les fait sortir de leur destitution. Oui, le ressuscité marche à tes côtés, même quand tu ne le reconnais. Et puis, il traînait aussi une sorte de douleur, et c'est là que Jésus va s'approcher d'eux, et ils deviendront ils vont faire ces 12 kilomètres, Jésus s'approche d'eux, et ils sont dans leur douleur, et à la fin du passage, on observe qu'ils vont faire les 12 kilomètres, on a l'impression en 5-7 ans. Et pourtant, Jésus est parti. Et pourtant, Jésus disparaît de l'autre. Parce qu'au contact de Jésus, ta mentalité change et il te met en mouvement. Et il y a aussi une fête, c'est qu'il y a parti de Jérusalem. Jérusalem était le lieu de la défaite. Jérusalem était le lieu où ils ont vécu la pire des situations de leur vie. Et ils ont arrivé Emmaüs, mais ils ont compris, ils ont viré Jérusalem. J'ai l'impression que c'est sur le chemin de ta vie. Je vais te dire que c'est par la résurrection que Dieu veut ouvrir tes yeux, changer. Te faire sortir de la déception. Te faire changer de mentalité et te mettre en mouvement. Et t'accorder la grâce. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble. Ce message de résurrection ne passe pas à côté. C'est l'expression pleine et entière de la grâce de Dieu pour toi. Peut-être que tu t'es retrouvé dans ces deux disciples, dans tes situations de vie. Mais si Luc, qui aime donner des détails, donne ce texte-là inspiré par l'Esprit, c'est bien pour toi, c'est bien pour moi, parce que le Seigneur vient nous rejoindre dans notre chemin. Il vient nous rejoindre là dans nos difficultés, dans nos désillusions, dans les choix, peut-être, comment dire, les mauvais choix que nous avons faits, dans, comment dire, les espoirs déçus du passé. Il vient te rencontrer là et il te dit, fais route avec moi, je t'emmène sur le chemin de la vie. Tu as besoin que ta mentalité change. Assez qu'à-t-il. Accepte que l'esprit de résurrection vienne en toi et change tes perspectives. Et n'oublie pas une chose, c'est pas toi qui dirige. Parce que moi, dans ma grâce, je t'accueille. Si tu réponds oui, c'est parce que je le veux. Et c'est parce que je le veux aussi. On ne peut pas dire que tu n'as pas ta responsabilité. Non. Tu as ta responsabilité pleine entière. Mais quand tu dis oui à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui t'a permis. Amen. Alléluia. Alors, où tu en es avec ce message de résurrection? Où tu en es? J'aimerais t'inviter à prendre une décision. Là où il y a des choses qui doivent bouger. Là où il y a des choses qui sont mortes qui doivent renaître. Là où le Seigneur t'interpelle depuis des lustres, il t'interpelle, il t'appelle. Il vient sur ton chemin. Et il n'est pas en train de t'écraser, non. Il t'écoute patiemment. Mais il a des vérités à te dire. Ô homme sans intelligence, ô femme sans intelligence, que tu es stupide à rester dans tes pensées et à tourner sur toi-même. Tu as besoin de croire en la résurrection. Et puis, le Seigneur t'ouvre une table, il te dresse. Il vient chez toi et c'est lui qui le dit. Alléluia. C'est lui qui veut dire comment. Alors, si en ce matin, tu veux un renouveau avec le Seigneur, tu peux juste le prier. Pendant quelques temps, là, je vais prier. Quelques temps de silence. Je... Seigneur, nous avons tous besoin de cet esprit de résurrection. Merci pour celui, pour celle qui, dans le profond de son cœur, prend une décision et veut que tu le rejoignes sur son chemin. Merci Seigneur pour ta tendresse et ta douceur, ta patience. Merci Seigneur pour ta radicalité qui vient bouleverser tout dans ta vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Je sais que tu veux accomplir ces choses dans la vie d'une personne, d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune fille. Et oui, à un moment donné, tu nous bloques dans nos vies. Arrête, aux femmes sans intelligence, aux hommes sans intelligence. Arrête de penser à tes propres pensées. Commence à accepter l'esprit de Dieu qui vient de changer. Ensemble. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as faite. Au-delà de nos capacités, de nos forces, tu fais. Parce que c'est toi qui nous conduis. C'est vrai, nous voulons t'accueillir, mais c'est toi qui nous Seigneur, agis. Transforme, agis. Que ce jour soit un jour de renouveau. Que ce jour soit un jour de changement. Je peux même moi-même témoigner que j'avais à peine 14 ans et demi, le Seigneur m'a touché un dimanche de Pâques. Le Seigneur m'a transformé un dimanche de Pâques. Je ne savais pas comment un jour j'allais donner ma vie au Seigneur et je voulais surtout pas embêter quiconque, je voulais être mis de côté et tout. Et le Seigneur m'a rempli de sa force, de son esprit pour aller demander la prière. Et ma vie a été transformée. Et ma vie a été changée. J'ai reconnu mes péchés et je l'ai accepté dans mon cœur. Il y a 14 ans et demi, je peux vous dire, je peux vous témoigner, oui, j'ai péché. Oui, je les ai vus. Merci. Seigneur, ce que tu fais. Je te remets chaque âme, chaque cœur. À toi la louange. À toi la gloire. À toi la règne. Au siècle des siècles.